Alors, une nouvelle journée, une nouvelle DPJ. Un enfant autiste de 6 ans a été battu à répétition pendant 4 mois dans un foyer de groupe géré par la DPJ. Il a été frappé au visage, mordu, griffé, étranglé, la tête fessée sur le mur. Il lui est tout arrivé, ce jeune garçon. 6 ans, autiste, qui a été victime d'agression sans que les services sociaux réagissent. Encore. Il a fallu l'intervention d'un juge pour qu'il soit déplacé. Alors, à l'origine de cette enquête et cet article, il y a le journaliste Philippe Tessera-Lessard de La Presse qui est avec nous. Salut, Philippe.
Bonjour.
Alors, peux-tu nous résumer un peu? Je suis un peu découragé aujourd'hui.
Oui, bien, vous l'avez bien résumé, effectivement. L'enfant est âgé de 6 ans. C'est un enfant qui a lui-même des problèmes de comportement, mais il a été placé dans une ressource qu'ils appellent une ressource de débordement. Une nouvelle ressource où il a dû cohabiter avec seulement des jeunes beaucoup plus âgés que lui, donc des 6 autres jeunes âgés de 12 à 14 ans. Donc
qui ont des grands problèmes eux-mêmes.
Qui ont des grands problèmes, effectivement, souvent de comportement eux-mêmes. Et donc, le juge ne le dit pas comme ça, mais on comprend avoir les résumés de rapports d'incidents que le jeune enfant de 6 ans qui est sur qui a un trouble du spectre de l'autisme est un peu devenu le
souffre-douleur.
Le souffre-douleur là, des ados.
Il c'est a pas été juste là souffre-douleur comme un peu écœuré, comme ça. C'est de la grosse violence, là. C'est solide. Puis pendant 4 mois.
Exact. Ouais, de juin 2018 jusqu'à l'automne 2018, jusqu'à octobre, au moment là où il a été sorti d'urgence.
Et la DPJ faisait pression sur les parents pour pas qu'ils fassent de scandale avec ça, là.
Ben c'est ça. Un aspect intéressant de cette histoire-là, c'est que les parents ont pu visiter à 2 reprises la ressource où vivait leur fils. Et puis, à 1 et 2 reprises, là, ils ont constaté vraiment que la ressource était physiquement en mauvais état. Puis que, qu'il n'y avait qu'un seul employé là, pour surveiller 5 enfants qui sont pas des enfants...
Pas des enfants faciles,
Pas des enfants faciles, voilà. Et donc, ils se sont plaints. Ils ont rapporté les problèmes à la DPJ. Et puis la juge dit que non seulement ils ont été rabroués, non seulement ils ont été leur plainte a été rejetée, mais en plus la DPJ leur a dit que en se plaignant comme ça, ils nuisaient au développement de l'enfant. Mais en plus, ils ont eu la juge dit que la DPJ a utilisé ces plaintes là pour contre les parents au fond là, pour une fois devant le juge les situations sont révisées à plusieurs reprises et puis la DPJ a réutilisé ces plaintes-là contre les parents eux-mêmes pour forcer chaque contact entre parents et enfants à être supervisé. Donc c'est un des aspects de cette histoire-là qui est particulièrement intéressante d'un point de vue
particulièrement
public.
Atroce. La différence entre ça et un mauvais film d'horreur, c'est qu'un mauvais film d'horreur, ça finit, on en sort, puis ça, on n'en sort jamais. Mm-hmm. Cet enfant-là va être marqué le restant de ses jours.
L'avocat qui le représente, parce qu'évidemment, les enfants n'embauchent pas des avocats eux-mêmes, mais l'État leur assigne des avocats. Et puis l'avocat qui le représente dit que ce qui l'a particulièrement troublé, c'est que dans les rapports d'incidents, si on veut, là, on rapporte une fois où le petit gars de 6 ans s'est réfugié dans un de ses tiroirs pour se protéger.
Ils l'ont trouvé dans un tiroir, exact, pour se cacher. Il dit, vous dites aussi que l'enfant s'automutilait.
Oui, c'est ce que la juge rapporte dans la décision. Là.
C'est incroyable. Puis il y a des intervenants qui ont tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. Mm-hmm. Malgré ça, il n'y a rien qui a été fait. Mm-hmm. Ça a pris l'intervention d'un juge pour le sortir de là.
Exact. C'est intéressant aussi dans ce jugement-là, c'est que la juge fouille dans les courriels un peu que les intervenants s'échangent entre eux là, et qui ont donc été classés au dossier de l'enfant. Et dès le début, la sonnette d'alarme est tirée. Dès le début, il y a des employés qui disent que c'est un mauvais milieu pour lui, qu'il est victime ou il est à risque d'agression. Et puis, il y a des tentatives qu'on peut qualifier de molles peut-être un peu de le transférer. Il y a notamment, en Montérégie, parce que ça se passe en Montérégie, il y a deux CIS différents, donc deux systèmes de santé différents, et le système de l'Est tente d'acheter, entre guillemets, une place à l'Ouest, une place où l'enfant serait mieux, et l'Ouest dit qu'ils n'ont pas de place, donc ils refusent l'achat. Et la juge dit que la tentative de transférer l'enfant se termine là, échoue, et donc il n'y a pas d'autre tentative qui est faite, il n'y a pas de suivi qui est fait. Ouais. On se fait dire non et on baisse les bras, c'est un peu ce que la juge dit. Et donc, elle dénonce ce qui s'est passé là. Et puis aujourd'hui, là, les élus, en commençant par le premier ministre, ont aussi dénoncé ce qui s'est passé dans ce cas-là.
Ben, c'était Philippe Tessera Le Sart, journaliste à la presse. Merci beaucoup, Philippe.
Merci à vous. Bonne
journée. C'est désolant, mais merci beaucoup. On a avec nous au téléphone Jade Saint-Jean, qui est porte-parole du Centre intégré de santé et des services sociaux, ce qu'on appelle les CIS. Bonjour, Madame Saint-Jean.
Oui, bonjour. Donc, tout d'abord, justement, peut-être préciser, c'est vraiment, comme M. Le Sart vient de le mentionner, il y a la DPJ, donc, qui relève du CIS de la Montérégie-Est, qui ont la responsabilité de trouver un milieu pour les enfants qui ont besoin de placement. Puis, lorsque l'enfant a un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, ils vont affaire à nous, au CIS de la Montérégie-Ouest, qui a la responsabilité de cette clientèle-là. La petite précision que je veux porter tout d'abord...
Un enfant a été placé par la DPJ ou par vous?
En fait, la DPJ nous a demandé de trouver un milieu pour l'enfant dans nos parcs de ressources. Parce que nous, on a une responsabilité régionale.
Comment ça fait que personne n'a vu ce qui s'est passé là? Le jeune, il a été battu pendant 4 mois. Il n'y a personne qui a vu ça?
Moi, je ne peux pas malheureusement commenter le cas précis. Pour des raisons de confidentialité. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est une situation qui est très malheureuse. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en est conscient. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour s'assurer que ce genre de situation n'arrive pas, n'arrive plus. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut aussi réaliser que c'est un enfant de 6 ans qui avait besoin d'un soutien en ressources intermédiaires. Donc, c'est un encadrement très... C'est pas une famille d'accueil. Puis, pour nous, au CIS de Montérégie-Ouest, des enfants de 6 à 9 ans qui ont besoin de tels supports, c'est très exceptionnel. Il n'y en a presque pas. Donc, l'objectif, c'est toujours de trouver le meilleur milieu pour ces enfants-là. Puis, généralement, pour faire un parallèle avec ce que monsieur...
Ça, c'est tout ce qui devrait être fait normalement. Je suis ravi de l'entendre. Mais là, en ce moment, si vous ne pouvez pas répondre aux questions parce qu'il y a enquête, moi, je me demande, s'il y a quelqu'un chez vous qui s'est posé la question, c'était mon enfant qui se faisait torturer, maintenant, il y a personne qui allume. Je veux dire, là, on vient de voir en plus sur un fil de presse de Radio-Canada que pour la mort de la petite fille d'une fillette de 7 ans à Granby, là, qui était sous la responsabilité de la DPJ, personne n'a été blâmé. C'est parce que les enquêtes, après ça dure des années. On attend que l'enquête sorte. Pendant ce temps-là, il y a plein d'autres cas. Et j'ai l'impression que ça continue. Moi, j'ai l'impression, on parle de cas à chaque fois. Vous pouvez pas parler du cas, mais moi, je vais vous parler du fait que je suis pas mal certain que c'est pas mal généralisé. Il y a pas une journée où on peut éviter de parler de la DPJ. C'est quand même étrange.
Et moi, je vais vous parler pour la DPJ. Moi, je ne représente pas la DPJ du tout. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, en ce moment, ça, c'est notre partenaire. On essaie de trouver les meilleures ressources pour les enfants. Comme je vous dis, c'est exceptionnel, il n'y en a presque pas. Nous, ce qu'on doit regarder aujourd'hui, c'est dire ce serait quoi la meilleure formule pour ces enfants-là qui sont les enfants avec du trouble du spectre de l'autisme, qui ont des besoins particuliers. Comme en ce moment-là, on est en train de vraiment voir faire trouver la meilleure ressource possible. Ce qui arrive, c'est quand on n'en a pas, comme c'est présentement le cas, on essaie de mettre tout en place autour de l'enfant pour assurer sa sécurité.
Oui, mais ça, ce que le juge dit, c'est que le transfert a été essayé une fois, mollement, ça n'a pas marché, puis qu'il n'y a pas eu d'autres tentatives. C'est ce que le juge dit, là.
Une chose qui est sûre, c'est que si la...
Mais ça, c'est sûr. Ce que le juge dit, c'est sûr.
Oui, c'est sûr que si notre directeur... des services, des programmes d'efficience est mis au fait de cette situation-là, il va agir. Ce que je vous dis, c'est sûr qu'il y a eu des problèmes de communication. Aujourd'hui, on a resserré vraiment les liens pour que dès que des situations particulières sont mises à la lumière, que des actions soient portées immédiatement. Ça, c'est sûr. Notre priorité, c'est les enfants. Puis je pense qu'aujourd'hui, là,
on dirait pas, il a été laissé là 4 mois. La priorité n'est pas l'enfant dans ce temps-là. Je suis désolé, là.
Dans la réalité, c'est que de tous les jours, on essaie de faire du mieux pour trouver le meilleur milieu adapté pour chaque enfant.
OK. Alors, la question, c'est votre mieux qui peut pas être le mieux. Est-ce que c'est dû au fait que vous manquez de personnel et que vous manquez d'argent?
En fait, dans ce cas-ci, on parle de ressources intermédiaires. Donc, ce ne sont pas nos nos employés, c'est des gens qui ont un lien contractuel avec nous. En effet, si on pouvait avoir plus de ressources intermédiaires, plus de ressources de type familial, ça nous donnerait une plus grande possibilité de trouver des endroits pour des enfants. Néanmoins, aujourd'hui, on cherche toujours de trouver un milieu qui est adéquat aux besoins de chaque enfant en mettant les ressources. Exemple, on pourrait mettre, souvent, si c'est pas tout à fait parfait, optimal comme pairage, on va demander de mettre un intervenant, un ratio un intervenant, un usager. Donc, c'est ça, ces genres de ressources.
Oui, là, c'est 1,6, dont un enfant pas du même âge que les autres. En tout cas, je vous remercie quand même de nous avoir parlé. Après la pause, on reçoit l'honorable Jacques R. Roy. C'est un juge qui a siégé une quinzaine d'années à la Chambre de la jeunesse. Bougez pas. Merci. Alors, je rappelle notre sujet. Un enfant autiste de 6 ans a été battu à répétition pendant 4 mois dans un foyer de groupe accueillant des adolescents avec des troubles de comportement à Montorégie. On a avec nous le juge, l'honorable Jacques R. Roy, qui a siégé une quinzaine d'années à la Chambre de la jeunesse. Et nous deux, on se connaît un peu, on s'est déjà rencontrés une fois. Bonjour, monsieur.
Oui, c'est vrai. Vous aviez eu la générosité de venir parler aux avocats et aux juges. Des problèmes des ados.
Mais si je me rappelle, c'est très gentil, mais si je me rappelle bien, il y a un des juges qui m'a dit c'est le fun, tu viens, Dan, parce que des fois, nous autres, on a 3 minutes pour décider de l'avenir de l'enfant. Alors, je comprends qu'il y a besoin de données supplémentaires, ce que j'ai donné du mieux que je pouvais, là, mais ça fait poser la question, parce qu'on revient toujours où il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Combien ça vaut la vie d'un enfant au Québec, là?
Ça n'a pas de prix. C'est la ressource naturelle la plus importante d'une société, de la société québécoise. C'est pas l'uranium, c'est pas l'or, c'est nos enfants. Donc, il faut y mettre les efforts, puis l'énergie, puis les sous également pour s'assurer que cette richesse naturelle la plus importante est bien traitée.
Mais on ne met pas les sous. Là, je cherche des solutions partout, dans tous les sens. Je sais plus quoi faire. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée, je lance ça en l'air, là, de retirer le dossier de la DPJ au mammouth qui est rendu le système de santé? Ça n'a pas de sens. Des fois, on a l'impression que c'est un bordel, la DPJ. C'est géré par un autre bordel qui est le ministère de la Santé. On ne pourrait pas donner ça, je ne sais pas, au ministère de la Famille, des fois connecté avec les garderies, faire des choses ensemble, là.
Je trouve ça intéressant, M. Bigrand, cette observation-là. Tu sais, on dit, puis on a répété, que small is beautiful. Actuellement, le DPJ est une cellule dans un immense organigramme qui est le ministère de la Santé, où est-ce qu'on a les hôpitaux, les CLSC, les centres d'hébergement pour personnes de longue durée. Puis il y a également la DPJ. Il me semble que c'est perdu, là. Puis on n'accorde pas l'importance qu'il y a à cette ressource inestimable qu'est la jeunesse. Je pense qu'il faudrait le placer quelque part d'autre, le sortir, l'extirper de cet organisme-là pour qu'on l'ait davantage sous les yeux puis qu'on puisse intervenir à temps.
Parce que là, c'est quand même grave. C'est un de vos confrères qui a dû émettre un jugement pour forcer le CIUS à sortir l'enfant de ce milieu extrêmement toxique, violent et dangereux pour lui, dans lequel il était pendant 4 mois. Personne, avant un jugement de votre confrère, l'a fait. Auriez-vous porté le même jugement?
J'espère, je connais pas tous les dossiers, oui. Mais j'espère que
les
oui.
Les détails du dossier,
en,
oui.
En sens que cette loi-là, comme vous le savez, elle a 40 ans. Depuis janvier 2019, elle a 40 ans. À 40 ans, on dit qu'on commence, la vie commence pour certains. Alors, j'espère que avec la commission qui a été mise sur pied, là, on va avoir une nouvelle vie, une nouvelle ressource, une nouvelle énergie pour s'occuper adéquatement de nos enfants et adolescents. Je trouve qu'il y a eu, dans ce cas-ci, avec le peu que je peux savoir, un manque de communication flagrant, époustouflant, comme quelqu'un d'autre pourrait dire.
Mais qui frise la mauvaise foi, parce que là, les intervenants ont sonné la cloche eux-mêmes en disant que ça n'avait pas de bon sens. Donc là, c'est pas juste qu'il y a quelqu'un qui l'a pas vu, il y a quelqu'un qui voyait la situation puis qui a décidé de rien faire.
Au départ, tu sais, sans être un expert, là, les troubles de des troubles de l'autisme. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a des troubles graves de communication. Il y a oui, des absolument. Difficultés de langage. Il y a des troubles de socialisation. C'est un enfant de 6 ans. Comment expliquer qu'il y a quelqu'un qui a décidé de placer cet enfant avec ses troubles importants dans une ressource où est-ce que ce sont des enfants de 12 à 14 ans?
J'ai des chums à moi qui sont parents d'enfants autistes. J'en ai plusieurs, d'ailleurs. Et puis, l'autisme, c'est pas une maladie, c'est qu'il faut apprendre son langage. Il faut que les adultes qui s'en occupent apprennent le langage. Ils communiquent différemment. Il n'y a pas les mêmes codes.
Oui,
il faut apprendre ça.
Oui.
Mais c'est certain que tu le mets avec des enfants de 12 ans qui sacent des volets. C'est pas exactement la façon dont ça aurait dû être traité, là.
Il y en a précisément qui fonctionnent assez normalement. Il y en a d'autres, cependant, d'enfants qui nécessitent pratiquement une supervision de 24 sur 24.
Absolument.
Alors, ce petit enfant de 6 ans, bien, il y avait des troubles de comportement puis des troubles également du spectre de l'autisme qu'on appelait autrefois trouble envahissant du développement. Tu sais, c'était l'ancienne appellation.
Oui.
Alors, donc, au départ, pourquoi on l'a placé dans cette ressource-là? Avec des enfants de 12 à 14 ans. Deuxièmement, quand des intervenants disent « ça ne fonctionne pas, cet enfant-là est maltraité », ça amène le juge à dire qu'on a attenté à son intégrité physique et psychologique, on l'a violenté. Les intervenants interviennent, là, à ce moment-là, les cadres se parlent, puis là, ils font des téléphones entre eux ou entre elles pour qu'on transfère l'enfant de l'autre côté dans l'autre service d'aide à la jeunesse, puis là, deux solitudes, il n'y a aucune réponse qui est donnée. Hein?
Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a encore un enfant maltraité, puis qu'il y a encore, on a au gouvernement des gens qui disent qu'ils vont former un comité d'experts et puis tout ça, et comme d'habitude, mais j'ai l'impression que c'est juste pour gagner du temps, parce qu'à chaque comité, il n'y a jamais rien qui est décidé. Ça continue comme ça. Merci beaucoup, Monsieur le juge, Monsieur Roy, de nous avoir éclairé de vos lumières. Merci beaucoup. Au retour, Fred Savard s'installe en studio avec nous autres. 12 patients qui attendaient pour une chirurgie au cœur sont décédés en moins de 4 mois. Paul nous en parle. Paul, Fred nous en parle après la pause. Merci.